On est de retour dans Trudeau Landry. Je voulais vous dire, justement, qu'on a notre invité, que j'ai vu une dépêche de Radio-Canada qui disait que l'Ukraine et la Russie s'étaient entendus pour déterminer des corridors humanitaires pour permettre la circulation de civils qui cherchent à fuir les zones de guerre. Je trouve que c'est une bonne nouvelle en espérant que ce soit respecté. Et évidemment, on en voudrait plus. Un cessez-le-feu, par exemple, serait le bienvenu. Mais si au moins on veut essayer de faire en sorte qu'il y ait des zones à ne pas toucher, là, des corridors à ne pas toucher pour permettre aux civils de circuler, pour permettre aux réfugiés de quitter, ce serait la moindre des choses. Peut-être aussi vous dire qu'il y a un géant pétrolier russe qui est devenu le premier à faire une sortie contre, si on veut, le conflit armé. C'est le géant Lukoil qui a réclamé l'arrêt de la guerre en Ukraine. Il devient donc, ce géant pétrolier, la première firme russe d'envergure à s'opposer ouvertement au Kremlin. Et c'est dans le milieu, en plus, pétrolier. Donc, c'est intéressant de voir ça. Pas que ça va changer tout du jour au lendemain, mais on voit que quand même, il y a des gens qui se positionnent contre le président Poutine à l'intérieur même de la Russie. On a parlé encore une fois cette semaine, à plus d'une reprise, et c'est un sujet récurrent parce que ça amène des bonnes discussions dans Trudeau Landry, de l'Internet en région. L'Internet haute vitesse, la difficulté qu'ont certaines personnes à se brancher efficacement. Et le hasard fait qu'aujourd'hui, l'Institut économique de Montréal publie une note sur l'Internet, sur les tarifs et sur la capacité, le besoin que le CRTC interviennent en la matière. Je trouvais ça très, très, très intéressant qu'on puisse faire la lumière là-dessus. On va en parler avec Gabriel Giguère, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Monsieur Giguère, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Peut-être tout d'abord commencer par un constat que vous avez fait, c'est-à-dire que on se trompe pas en pensant qu'avec la pandémie, avec le télétravail, avec le fait qu'il y a des gens qui de plus en plus ont quitté les centres urbains pour aller s'installer en région, ben, ça fait en sorte que l'Internet est de plus en plus sollicité et qu'il y a de plus en plus de gens qui ont de la difficulté, par exemple, à travailler efficacement avec les services qui leur sont offerts ou pas.
Ben, vous avez raison. Écoutez, avec la pandémie, les besoins en Internet ont augmenté de façon importante là, du début 2019 au troisième trimestre de 2021. Là, c'est plus de 160 gigs en téléchargement pour le foyer moyen au Canada. Donc, on a besoin d'Internet. Maintenant, nous, ce qu'on dit à propos de ça, c'est que il faut démonter le régime de prix de gros du CRTC parce que ça freine l'innovation. Il faut laisser les entrepreneurs conclure des ententes entre eux. Parce que c'est pas normal aujourd'hui là qu'on a des entreprises qui détiennent des infrastructures de télécommunications qui investissent 8,5 milliards de dollars en moyenne annuellement sur les 8 dernières années, qui doivent revendre à un prix fixe, qui est fixé par le CRTC, l'accès et la capacité de réseau, à des plus petites compagnies qui ont investi 60 millions en 2020. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas là, parce que là, on réalise que 60 millions, là, c'est moins d'1% que ce que les gros mettent de l'avant, investissent chaque année pour le développement, pour l'innovation, pour l'entretien des infrastructures de télécommunications. Puis si vous me permettez, c'est un peu le même principe de dire, vous voulez vous acheter un immeuble proche de l'Université Laval. Vous dites, bon, je vais investir dans un immeuble locatif. Vous l'achetez. Vous commencez à entretenir le bâtiment. Vous changez les planchers. Vous changez les fenêtres. Bref, vous faites beaucoup de travail. Vous investissez beaucoup dans votre immeuble. Le gouvernement vous dit que ça vous coûtait 1 000 par logement. C'est le gouvernement qui fixe les prix. Puis là, il va vous dire, après tout ce que vous avez investi, vous allez encore le vendre 1 000. Vous allez encore le louer plutôt 1 000. Ça fait pas de sens. Okay. C'est pour ça que ça devrait être pris entre des ententes des entrepreneurs.
Mais comment ça devrait fonctionner concrètement, là? Ça serait quoi la bonne formule pour ça, là?
Ben, la bonne formule, c'est d'arrêter de dire aux entreprises qui détiennent l'infrastructure en télécommunication, vous allez donner accès à ce prix-là et de laisser le marché, en fait, la libre concurrence faire son œuvre, parce qu'on a une concurrence entre divers joueurs qui détiennent des réseaux d'infrastructure en télécommunication. Puis il y a même des nouveaux joueurs qui arrivent avec le satellite, donc on a une concurrence vive, puis ça doit être comme ça que ça se fait, là. C'est pas le CRTC devrait pas choisir les prix, là.
En quoi, j'essaie de mettre à la place, M. Gigant, des gens qui nous écoutent, là, s'il y a quelqu'un qui est en périphérie de Québec puis qui a de la misère à avoir les têtes haute vitesse, et que là, il essaie de démêler un peu tout ça, là, le prix du gros versus les petits joueurs, en quoi ça viendrait lui assurer de meilleurs services? Et est-ce que ça veut dire que ça devrait se faire à un coût supérieur, mais qu'au moins le service se rendrait? Comment on peut l'expliquer, là, l'imager pour les gens?
Ben, c'est une bonne question, puis on va parler peut-être de la politique là, d'Internet haute vitesse là, que vous avez parlé en début de semaine. On demande en ce moment aux citoyens, aux contribuables plutôt, aux familles québécoises, de payer des centaines de millions de dollars pour s'assurer que tous les foyers branchés à l'électricité aient accès à Internet haute vitesse. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on salue le fait que oui, c'est important d'avoir Internet haute vitesse, mais si le CRTC n'avait pas fixé les prix de gros, et ne faisait pas du jeu de ping-pong entre les différentes décisions qu'ils ont prises en 2016, 2019 et 2021. Eh bien, si c'était pas ça, probablement que les grandes entreprises qui détiennent l'infrastructure de télécommunications auraient vu une opportunité d'affaires à aller développer certains secteurs. Est-ce que ça aurait coûté un petit peu plus cher développer? Forcément, et vous en parliez, ça coûte 10 000 $ quand on est en moyenne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est normal peut-être que le forfait coûte un petit peu plus cher, mais on s'assure au moins que tout le monde ait accès à Internet haute vitesse sans demander à l'ensemble des contribuables de payer. On s'assure peut-être pas, mais on met toutes les conditions gagnantes de notre côté plutôt que de faire payer des centaines de millions de dollars aux contribuables.
Je comprends, parce que juste pour replacer les gens, le Thomas Gerbet, son reportage qui disait, c'est qu'il y a certaines résidences qui sont dans des rangs éloignés. Ça coûte là individuellement pour cette résidence-là aux contribuables, parce que le gouvernement caquiste veut respecter sa promesse. Ça peut coûter jusqu'à 12 000 $ de brancher une résidence à ce service-là. Puis autrement dit, ce que vous dites, c'est que si le CRTC s'en mêlait pas, des compagnies verraient une opportunité, puis on n'aurait pas besoin de compenser financièrement avec l'argent des taxes. C'est un peu ça que vous dites là.
Ben, c'est exactement ça, parce que les compagnies qui développent l'infrastructure dans ces régions-là seraient pas tenues de les vendre au prix fixé par le CRTC. Ça coûterait un petit peu plus cher, mais au moins, on a des personnes qui auraient déjà accès à Internet haute vitesse, plutôt qu'être en 2022, d'avoir besoin d'Internet avec la pandémie, on le voit comment c'est important, puis qui ont toujours pas Internet. Donc, clairement, là, il faut vraiment s'attarder au démantèlement du régime de prix de gros par le CRTC.
Si on était, tout le monde en parle, M. Giguère, c'est là qu'on mettrait l'effet sonore de la fameuse question qui tue. qui a à gagner à garder ça comme ça? Est-ce que c'est uniquement le mot tadine de vieux réflexe du CRTC de pas bouger assez rapidement, d'avoir les deux pieds pris dans le ciment puis de pas bouger? Parce que je me dis, si on augmente ça, ben les géants, eux, vont y voir un incitatif, ça va être plus intéressant pour eux. Oui, le contribuable lui va payer un peu plus cher, mais va avoir le service. Donc, qui a gagné à garder ces prix-là aussi bas que ça, puis à garder ça figé?
Ben, je pense que d'abord, vous avez déjà pointé peut-être un réflexe de tout réglementer du CRTC, d'une part. Ensuite, on a des petits revendeurs qui n'investissent que très peu d'argent. Là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit qu'ils investissent moins d'1% que les gros joueurs qui détiennent l'infrastructure. Eux, ça n'encourage pas l'innovation, ça n'encourage pas l'investissement. Puis je pense que c'est surtout eux qui ont à gagner dans la situation, là. Parce qu'en fait, le CRTC, si vous me permettez, ils veulent une concurrence. Ils créent artificiellement une concurrence dans le secteur, donc une concurrence au détail. Peut-être que les prix coûtent un petit peu moins cher, mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre de l'avant, et le Bureau de la concurrence du Canada est d'accord avec ça, c'est de mettre de l'avant une concurrence basée sur l'infrastructure. Parce que c'est avec des entreprises qui détiennent un réseau d'infrastructures de télécommunications qu'on peut investir. En fait, c'est avec eux. C'est eux qui nous permettent d'avoir un solide réseau d'infrastructures de télécommunications parce qu'ils investissent massivement à coups de milliards de dollars.
Très intéressant, M. Giguère. Rendez-vous si le CRTC va éventuellement entendre ces appels-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous.
Salut.
Merci, Gabriel Giguère, qui est économiste à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal.
C'est ça. En gros, là, la réglementation du CRTC décourage l'innovation. C'est exact. Un peu ça leur ligne. Et ça empêche les entreprises de voir une opportunité d'affaires quand vient le temps de développer un réseau dans des secteurs plus éloignés. Ce qui fait que là, nous autres, le contribuable, on est obligé de passer à la caisse. Parce que t'as raison, Joe, quand on se parle de ça. C'est essentiel, là, quand tu penses à ça aujourd'hui, là. Mais jusqu'à quel point le contribuable doit financer ça? Le contribuable qui vit dans un centre urbain, qui paye déjà aussi beaucoup d'impôts, des taxes municipales, des loyers qui sont très, très coûteux aussi.
Parce que, à la limite, si, mettons, tu considères qu'un citoyen ne devrait pas avoir à payer plus cher son Internet haute vitesse que l'autre, à la limite, tu pourrais avoir un programme gouvernemental, je sais que t'aimeras pas ça.
Un programme gouvernemental.
Mais d'avoir un programme qui vient compenser la différence plutôt que de payer des milliards en branchement.
Ça serait peut-être déjà moins pire. Parce que la farce qu'on faisait cette semaine, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est qu'à 12 000, là, il y en a pour qui ça serait moins cher qu'on leur paye un bureau à Montréal, va faire ton Internet là, puis tu retourneras chez vous après, là. C'est un peu ça l'image qu'on peut donner, là, à quel point c'est coûteux. Là.
Ce qui m'inquiète dans ce que j'entends de M. Giguère, c'est que ça sous-entend que faudrait quasiment que ce soit plus cher de temps en temps nos services Internet, alors qu'on paye déjà plus cher qu'à peu près n'importe qui de sa planète.
Oui, mais ça, c'est le capitalisme. C'est l'offre et la demande. C'est sans avec moins d'intervention, moins de réglementation. Des fois, tu payes des services plus chers quand il y a moins de demandes.
Parce que si tu magasines, je sais, je suis là-dedans de ce temps-ci.
Ouais.
J'ai un excellent fournisseur.
Oui.
Tiers, mm-hmm. qui s'appelle E-Box.
OK.
Malheureusement, ils viennent d'être achetés par Bell la semaine passée. Fait que je voulais pas, mettons, fournir à une des grosses compagnies. Mais là, je me retrouve quand même à fournir à une grosse compagnie. Fait que je magasine pour aller chez un autre petit fournisseur.
Okay.
Les prix sont à 5 piastres près identiques partout où tu magasines. Partout. Venez pas me dire qu'on a une culture puis un...
Il n'y a pas assez de joueurs.
Un système, un écosystème qui permet la compétition. Mmh. Je veux dire, c'est tout... Les mêmes prix, j'ai l'impression de magasiner du gaz.
Il n'y a pas une vraie concurrence. Comme on l'aimerait, c'est ça.
C'est ça.
C'est ça en est louche. Mm.
Non, c'est parce que c'est justement à cause du CRTC, je pense, qui a établi que si tu achètes le service, tu achètes à Bell ou tu achètes à Vidéotron.
Tu décourages la concurrence.
Ouais.
Fait qu'il faut que tu payes, faut que tu leur redonnes.
Exactement
ça. Fait que peu importe qui te revend le service, ça part tellement élevé que ça limite la compétitivité, la compétition.
OK, et dans un autre ordre d'idée, avant d'aller à la pause, si je vous dis Luce Dano, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
Luce Dano.
Non.
Luce Dano, c'est la nouvelle candidate du Parti conservateur du Québec, du Parti d'Éric Duhaime, dans le comté de Drummond. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'elle a été deux fois candidate pour Québec solidaire. Elle appuyait QS depuis sa fondation et c'est même elle qui a mis sur pied la branche de Québec solidaire dans le comté de Drummond. Mais là, elle dit que... Éric Duhaime dit que la population est maintenant divisée entre ceux qui veulent garder leurs droits civiques et ceux qui font confiance au gouvernement pour rester en sécurité. Je suis pas certain que ça va être ça l'enjeu de la prochaine élection. Là.
Mais
bonne chance. Là. Bonne chance, parce qu'il a été questionné. Je viens de lire, c'est Radio-Canada qui vient de sortir l'article. Éric Duhaime qui a fait sa conférence de presse là, il y a pas longtemps à Drummond. Là, il dit, oui, ça va être un défi de réconcilier les idées de chaque candidat. C'est pas juste à la santé. T'as Éric Duhaime qui veut plus de privé en santé, mais qui, dans son éventuel caucus, aurait une double candidate fondatrice de l'aile solidaire du comté de Drummond, qui, lorsque tu dis privé, sort un crucifix de l'ail puis fait des incantations.
D'après moi, ils s'entendront même pas sur un restaurant pour aller manger, pour discuter de leur proposition. Tellement que c'est des idées d'un peu partout.
Mais c'est parce que le discours anti-vaccin, il y a beaucoup de gens d'extrême gauche là qui sont anti-compagnie, anti-pharmaceutique, qui prennent pas de médicaments jamais, qui sont dans des médecines alternatives. Il y a du monde flyé là-dedans là, dans les anti-vaccins. Faut pas se le cacher là. Puis des fois, je veux pas généraliser, mais des fois ces gens-là ont des idées qui sont assez à gauche. Et le dernier sondage a prouvé que Éric est allé puiser chez Québec solidaire pour gonfler ses appuis. Chez des gens qui sont très, très, très à gauche.
Ça fait pour là. Mais comment il va se rendre jusqu'en octobre? Écoute, Léger s'est engagé. Il a décidé de faire un sondage par mois. Ça fait quoi? Déjà
tout
deux
avec,
semaines, le dernier?
Tout avec.
Donc, d'après moi, d'ici deux semaines, on va avoir un autre sondage. Mais voilà, on nous dit aussi que Mme Dano, toutes ses publications Twitter avaient été effacées.
Non.
Un peu comme ils avaient fait.
Mais tu sais, Anne Casabonne n'est pas loin de ce mouvement-là, là. Anti-modernisme.
Mais c'est ça, je te dis. T'as déjà très à gauche dans ceux qui sont anti-vax. Puis Éric est allé piger dans ça, là. Parce qu'il n'aime pas les grosses compagnies. Il se méfie du capitalisme et de Pfizer. Puis des, Il y a beaucoup de ça là, là-dedans.
Il y a conservateur dans le nom du parti.
Oui, mais c'est qu'à un moment donné, là, comme on a déjà dit, les extrêmes, à un moment donné, se rejoignent. Ils se rejoignent un peu dans l'anarchie, puis dans l'anti-État. Puis,
sauf que...
C'est un peu ça.
Mettons, tu prends deux extrêmes.
La coalition Éric Duhem.
Plus ils partent de loin, plus ils prennent la vitesse avant de se rejoindre.
Ça et cogne.
Plus l'impact... Ouais. Tu sais, si c'est de gauche à droite, mais pas, ça se rencontre tranquillement. Ouais. Mais si t'es aux deux bouts du spectre, ça peut sembler intéressant, mais ça se peut que la coalition soit frontale, là, écoute.
D'après moi, rendu à mi-septembre, ils vont dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ici ensemble? Il n'y a plus de masque, il n'y a plus rien, il n'y a plus de campagne de vaccination. Qu'est-ce qu'on fait dans la même réunion? Là?
Mais quand ils vont annoncer ses engagements en campagne électorale, tu fais toujours ça dans un comté avec tes candidats. Il va falloir qu'ils soient très stratégiques sur qu'est-ce qu'ils annoncent, où puis avec qui, là. Pas qu'il y a une candidate qui sac son gamme au milieu de la conférence de presse ou qui se mette à le huer. Ça va être très particulier.
C'est drôle parce que les agressifs sont de retour. Dès qu'on parle de ça, les agressifs reviennent, hostie de clown, puis tout ça. Pis là, on en parlait moins depuis un bout. Il y avait beaucoup moins d'agressivité sur le texto parce qu'on parlait de l'Ukraine. On parlait de toutes sortes d'affaires.
Ils ont vu c'était quoi de la vraie dictature?
Oui. Dès qu'on parle d'Éric et des vaccins, il y a des gens agressifs qui débarquent sur notre 25-2-6. Pas une grande étude universitaire que je suis en train de faire là, mais je le remarque, tu l'as remarqué toi aussi, Joe. Dès qu'on se remet à parler de ça, les vaccins, Éric Duhem en Casabonne, il y a des gens hyper agressifs qui redébarquent sur notre messagerie.
Et tu sais, vous pouvez dire qu'on est clown de noter l'incohérence d'aller chercher une double candidate fondatrice de l'aile Québec solidaire de Drummond, là, mais tu sais, allez retourner écouter les tapes d'Éric Duhem, là. S'il y a bien quelqu'un qui a pu juger sévèrement la gauche ou on les ridiculiser, d'après moi, c'est Éric Duhem, là, comme porte-étendard d'une certaine droite que je rejoins à certains égards. Là. Pas mal sûr qu'Éric Duhem a été très, très, très sévère. Et là, soudainement, parce que vous voulez pas vous faire vacciner, vous pensez que ces gens-là vont former un tout crédible et cohérent avec une cohésion? Parce que si vraiment vous pensez que le seul enjeu, le seul facteur à évaluer pour décider qui est le mieux placé pour gouverner, c'est quoi les décisions que lui aurait prises il y a 2 ans parce qu'on ne sera plus en pandémie, puis que vous êtes prêts à tout mettre de côté les incohérences pour ça, ben ça vous appartient, là. Mais reprochez-moi pas de ne pas être d'accord. D'ailleurs, ça fait partie de la liberté, là, de trouver que ça n'a pas de sens. Pas juste vous autres qui avez des libertés, là. Nous autres, si on en a, là. Liberté de trouver que ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui dit, ouais, qu'est-ce qui t'a fait, Duhem? Qu'est-ce qui m'a fait? Il m'a fait que pendant 2 ans, il a divisé la population. Il m'a fait que pendant 2 ans, il a sous-estimé, il s'est sacré de l'impact que la pandémie avait, entre autres, sur le personnel de la santé. Puis oui, j'ai une crotte sur le cœur parce qu'il a dit que mes enfants, ils s'en crissaient qu'ils trouvent ça tough que leur mère roche dans le système de santé, comme plein d'autres mères de famille parce qu'elle faisait un bon salaire. Il a dit ça ici, assis en face de moi. Qu'il s'en sacrait que mes enfants, ils n'avaient pas à se plaindre. Fait que vous vous demandez si j'ai quelque chose contre Éric Duhem? Oui, j'ai quelque chose contre Éric Duhem. J'ai quelque chose contre lui. J'ai quelque chose contre. Les deux autres avec qui il fait des chroniques, là, à qui je reparlerai plus jamais de ma vie. Je m'excuse, mais moi, non, ça, j'oublierai pas ça. Il y a peut-être des gens qui vont pouvoir oublier ce que d'autres ont dit, mais la division que ces gens-là ont entretenue pendant des années maintenant, que nous, on ressent, là, parce que leur fanatique qui nous part après, là, non, je le pardonnerai pas. Je pardonnerai pas l'impact qu'ils ont eu sur le climat social.
À chaque fois...
Jamais je vais pardonner ça.
Qu'un journaliste se fait cracher dessus, se fait pousser, se fait dire des bêtises, se fait empêcher de faire son travail, pire que dans des pays qui sont en guerre, parce que dans les pays en guerre, on respecte les médias et leurs devoirs, ben, il faut se tourner vers ces gens-là, malheureusement. Les gens qui ont créé la division, les gens qui vous ont dit que tous les médias, les merdias vous mentaient.
Mais ça, tu sais d'où ça part, ça? Ça part beaucoup de Donald aussi, de Donald Trump, qui s'est fait une marque de commerce avec ça, à cracher sur tous les médias, parce que c'est une tendance qui est plus large qu'à Québec, là.
Ben oui.
La haine anti-média, là, c'est, tu le vois beaucoup aux États-Unis aussi. Là.
En passant, là, j'ai même pas envie de nommer de nom, là, mais tous ceux, là, qui nous criaient des bêtises, là, puis que vous trouvez ça bien épouvantable, là, trouvez-vous ça intelligent qu'un de votre gang que vous suivez, là, ait été dire que c'était tellement terrible au Québec en ce moment que ça donnait le goût d'aller prendre des vacances en Ukraine? Qu'assis sous son cul en Floride, il va dire que c'est tellement terrible au Québec qu'il faudra aller prendre des vacances en Ukraine. Vous trouvez ça brillant? Vous trouvez ça vraiment intelligent? Je comprends vouloir provoquer, là. Mais à un moment donné, il y a des maudites limites à prendre le monde pour des épées. OK! OK. Je pensais pas me fâcher. Ben on va faire une pause. 13h45 et bienvenue à cette dame de Québec solidaire qui fait maintenant partie du Parti conservateur du Québec.